De quoi bien nous réveiller ce matin. Alors, bien le bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Philippe Fontaine. Donc, voilà, encore la pluie, la fontaine, enfin tout ce que vous voulez. Alors, moi, je fais partie de l'équipe Alpha Belgium et j'anime aussi un parcours Alpha à Auderghem avec mon épouse et toute une équipe, bien entendu. Et je suis très très content de me retrouver ici avec vous tous. Content et inquiet en même temps. Je suis content qu'on ait commencé par prier. Parce que ça c'est vraiment très très important. On a prié en chantant, ce qui est prié deux fois, c'est encore mieux. Mais je suis très très content qu'on ait prié parce que figurez-vous que vendredi matin, il y a deux jours, enfin, en fait c'est à peu près la dixième fois au moins que je donne cet exposé. Voilà. Et il se fait que vendredi matin, il y a deux jours, je me suis dit, il faut que je change tout. Mais le problème, c'est que j'avais des tas de choses à faire vendredi et samedi, ce qui fait que je n'ai pas eu beaucoup le temps de me préparer à ma nouvelle version de cet exposé que je donne déjà depuis pas mal de temps. Alors, voilà, on va vraiment compter sur l'Esprit Saint, tous ensemble, et je compte aussi sur votre prière. Il faut vraiment que nous soyons ce matin tous ensemble dans un véritable climat de prière. Parce que, bon, vous avez vu hier, enfin vous avez entendu qui est l'Esprit Saint et qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Qu'est-ce que vous avez retenu de spécifique? Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement? Allez, j'ai envie de vous poser la question avant de commencer. Qu'est-ce que vous avez vraiment vécu comme une découverte hier? Est-ce qu'il y a une chose, un point bien précis qui vous a frappé? Répondez pas tous à la fois, mais... Amen, c'est bien, se lancer dans la vie. Allons-y, alors, d'autres. Tous les jours avec nous, oui. Amen, merci. Qu'est-ce que vous avez encore? Oui. C'est merveilleux. Allez, encore d'autres. Bien. Formidable. C'est bien, vous avez... Oui, il est toujours prêt. C'est un peu ce que Jean-Marie disait aussi tout à l'heure, et Gilbert. Oui, c'est une personne. Ah, vous avez certainement discuté de cet aspect des choses. Ça provoque toujours des discussions, ça. Est-ce qu'il est une personne? Est-ce qu'il n'est pas une personne? Qu'est-ce que c'est la Trinité, les trois personnes, un seul Dieu? Enfin bon, ça c'est un grand débat théologique. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais c'est bien. Vous savez, l'Esprit-Saint... C'est, comme disait Jean-Marie, il nous accompagne à tout moment, jour et nuit. Il est un peu comme la veilleuse de la chaudière. La veilleuse de la chaudière, elle est toujours allumée. Mais elle ne chauffe pas les radiateurs. Elle ne chauffe les radiateurs que si vous mettez le thermostat plus haut et que vous faites démarrer le brûleur de la chaudière. Ben, je pense que l'Esprit-Saint, il est là en veilleuse, en permanence, au-dedans de chacun de nous. Prêt à s'embraser ou à vous embraser quand vous le souhaitez. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait essayer précisément ce matin de faire cette expérience extraordinaire, de se dire, allez, on va se laisser remplir par l'Esprit-Saint, se laisser toucher intérieurement. On raconte qu'au zoo de Birmingham, je ne sais pas pourquoi c'est à Birmingham que ça se passe, mais enfin bon, dans l'histoire, c'est comme ça, les affaires allaient assez mal. Et donc, on était un peu au bord de la faillite. Et voilà que deux jours avant la réouverture du printemps, le gorille qui faisait un petit peu la une du zoo de Birmingham meurt. Alors, le patron est affolé. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors, il demande à un des ouvriers du zoo, pourrais-tu sauver la situation en prenant la peau du gorille et en te mettant dedans. Oh ben, moyennant quelques promesses de salaire substantiel, le gars, il accepte. Et donc, le voilà, le jour de l'ouverture, revêtu de la peau du gorille, dans la cage du gorille, bien entendu. Les gens se pressent pour le voir. Et lui, évidemment, plein d'entrain et plein de joie, il se dit « Ah, chic alors, je vais vraiment jouer mon rôle à fond. » Il commence à faire des tas de cabrioles, à pousser des grognements, à monter à l'arbre, à se suspendre aux lianes. Il fait des cumulés, il fait des bonds. Et il s'excite de plus en plus, à tel point qu'à un certain moment, il fait un fantastique saut périlleux et il se retrouve pile dans la cage d'à côté, qui est la cage du lion. Et alors, affolé, il voit le lion qui, pas à pas, s'approche de lui. Il panique de plus en plus. Et puis, au fur et à mesure que le lion est de plus en plus près, finalement, il crie « Au secours, à l'aide !» Et alors, le lion ouvre sa gueule. Et de la gueule du lion, il y a un murmure « Ferme ta gueule, imbécile, sinon on va tous les deux perdre notre job. » Voilà. Mais c'est pour vous dire que cette histoire nous ouvre à l'intériorité et à l'extériorité. C'est-à-dire que l'Esprit-Saint va nous toucher à l'intérieur de nous-mêmes et ça doit se voir à l'extérieur. Vous savez, il y a des tas de chrétiens qui disent « J'essaye de parler comme un chrétien, d'agir comme un chrétien, de ressembler à un chrétien, mais au fond, je ne me sens pas chrétien. » Eh bien, je pense que si on essaye de se laisser remplir par l'Esprit-Saint, si on accepte qu'il vienne en nous prendre la place de pas mal de choses, eh bien, ça peut se voir à ce moment-là à l'extérieur. Vous avez vu dans les exposés d'hier, l'Esprit-Saint vient actualiser en nous, aviver en nous la présence du Christ. Puisque c'est le Christ lui-même qui l'a dit au moment de l'ascension, il a dit à ses disciples, « Je m'en vais, mais je vous enverrai quelqu'un d'autre qui vous enseignera et qui vous rappellera toutes choses. » C'est donc véritablement l'Esprit-Saint qui continue en nous l'incarnation de Jésus. Le fait que Jésus ait pris notre condition d'homme. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on est rempli de l'Esprit-Saint? Ben là, on peut regarder un petit peu ce qui se passe dans la Bible. Vous savez que dans la Bible, il y a un livre qui est très très important à propos de l'Esprit-Saint, ce sont les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est donc le livre qui suit immédiatement les quatre évangiles et qui raconte les premières années de l'Église. Donc juste à partir de l'Ascension, la Pentecôte, et puis toutes les premières années de la toute première Église naissante après la résurrection du Seigneur. Et dans les Actes des Apôtres, on voit notamment quatre manifestations de cette présence de l'Esprit-Saint. Et peut-être que vous allez vous reconnaître dans l'une de ces quatre manifestations. Mais je vous les livre comme ça, et vous les prenez selon ce que votre sensibilité vous enseigne. Il y a d'abord la Pentecôte elle-même. Tous les disciples étaient rassemblés, priaient, demandaient, en fait, au Seigneur de venir, demandait au Seigneur de leur envoyer cet Esprit-Saint qu'il avait promis. Ils étaient en prière. Et puis tout d'un coup, l'Esprit-Saint a vraiment envahi la pièce, a envahi chacune des personnes qui étaient là. Et ils sont sortis et ils ont commencé à proclamer la parole du Seigneur. Ça, c'est vraiment extraordinaire. C'était une réponse de l'Esprit à leur désir profond d'être remplis de lui. Il y a aussi quand Pierre et Jean, c'est au chapitre 8 des Actes, prie pour que l'Esprit-Saint vienne sur les Samaritains. Alors là, vous avez cet extrait. Apprenant que la Samarie, en fait, c'était considéré par les Juifs comme des païens, puisqu'ils n'étaient pas ils ne faisaient pas partie vraiment d'Israël en tant que tel. Enfin, ils n'étaient pas considérés comme Juifs. Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, les apôtres qui étaient à Jérusalem y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent donc chez les Samaritains et prièrent pour eux, voyez la prière indispensable préalable à la venue de l'Esprit-Saint, afin que l'Esprit-Saint leur fût donné. Car ils n'étaient encore tombés sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur. Alors Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mains et ils recevaient l'Esprit Saint. Vous avez vu, c'est le geste que Gilbert a fait tout à l'heure pendant le chant, en posant sa main sur mon épaule, en priant pour moi. Ça fait énormément plaisir d'abord, et puis en plus, franchement, ça crée quelque chose à l'intérieur, ça éveille quelque chose, ça me donne de l'assurance, ça donne le sentiment que l'on n'est pas seul. Troisième manifestation de l'Esprit Saint dans les Actes des Apôtres, c'est au chapitre 9, c'est la conversion de l'apôtre Paul. Alors là, vous savez tous, hein, bon, tout d'un coup, sur le chemin de Damas, il a cette vision, Paul, qui était un grand persécuteur de l'Évangile et des chrétiens, des premiers chrétiens, tout d'un coup a cette vision de la présence du Christ qui lui dit, voilà, tu vas changer complètement, tu vas être complètement bouleversé, bousculé, converti. Et ça, c'est absolument extraordinaire. On dit qu'il est tombé de son cheval, encore que dans la parole, il n'y a pas d'histoire de cheval, donc c'est une... On a un petit peu enjolivé les choses. Enfin, toujours est-il qu'il a fait véritablement et brutalement cette expérience de la présence de l'Esprit Saint. Et puis, il y a une quatrième manifestation, c'est à Éphèse, au chapitre 19 des Actes. Paul rencontre un groupe de croyants, là. Donc, ce n'est pas comme les Samaritains, hein, qui n'étaient pas du tout convertis au judaïsme. Paul rencontre un groupe de croyants qui n'avait pas entendu parler de l'Esprit Saint. Je me dis parfois, je vais être cruel, hein, mais parfois dans nos églises, dans nos paroisses, je me demande s'il n'y a pas un peu ça, des croyants qui n'ont jamais entendu parler de l'Esprit Saint. Alors, il faut en parler, hein, il faut vraiment le dire et le redire. L'Esprit Saint, c'est vraiment, on voit, c'est terrible de voir comme il y a du monde dans nos églises à Noël, c'est un vrai plaisir. Il y a encore pas mal de monde à Pâques, encore que là, il y a déjà les premiers week-ends à la mer qui font qu'il y a un petit peu moins de monde. Mais alors, à la Pentecôte, vous n'avez absolument rigoureusement personne, parce que en plus, c'est le long week-end. Enfin, quoique maintenant, on a changé, semble-t-il, les jours de congé. On risque de ne plus avoir le lundi de Pentecôte, je pense. Et donc, alors, à ce moment-là, ça pourrait effectivement changer. Enfin, on verra bien. Donc, là... Des croyants qui n'avaient pas entendu parler de l'Esprit Saint, il leur impose les mains et l'Esprit Saint vient sur eux. Et voilà, ils passent du stade de croyant au stade de chrétien, c'est-à-dire de ceux qui ont véritablement reçu le Christ dans leur vie, dans leur être intérieur, par l'Esprit Saint. Même sans nécessairement savoir qui est l'Esprit Saint, ne pas avoir fait des études théologiques, mais s'être laissé remplir, s'être ouvert. Alors, en fait, faire l'expérience de l'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est? Vous savez, chez beaucoup, beaucoup de gens, l'Esprit Saint se manifeste d'une manière physique. Et je pense que dans nos régions, en Belgique, et Europe occidentale, on a un peu peur de ça. Quand je dis manière physique, ça ne doit pas être nécessairement des actes débridés, fantasmagoriques de quelqu'un qui commence à se rouler par terre parce que tout d'un coup l'Esprit Saint lui est tombé dessus. Quoique, ça peut très bien arriver, et il ne faut surtout pas mettre de frein à la manière dont l'Esprit Saint se manifeste. Mais ça peut être simplement ressentir au fond de soi-même une grande chaleur. Ça peut être simplement des larmes qui montent aux yeux. Ça peut être le battement de cœur qui s'accélère. Ça peut être une certaine transpiration. Ça peut être un certain allaitement, c'est-à-dire avoir la respiration qui s'accélère, des choses comme ça. Il y en a qui rient aussi, parce que je disais qu'il y en a qui versent des larmes, mais il y en a qui rient quand il y a l'Esprit Saint qui véritablement les envahit. Si vous n'avez encore jamais eu dans votre vie cette expérience d'une intense proximité avec Dieu, sachez qu'il est encore temps et qu'aujourd'hui précisément, ce sera peut-être pour vous le moment. J'espère que dans votre vie, vous avez déjà eu des moments de rencontre si profonds avec le Seigneur. Des rencontres qui vous émeuvent. Ça peut être à l'occasion d'une célébration où vous entendez un chant qui vous touche particulièrement. Il y a des chants méditatifs comme ça qui font tout d'un coup prendre conscience d'un message du Seigneur pour chacun de soi. Il y a parfois des rencontres avec des gens. Vous rencontrez quelqu'un qui se livre à vous et qui a besoin de votre aide et vous vous sentez en profonde relation d'amitié, en communion, je dirais, avec cette personne. C'est aussi une manière pour l'Esprit-Saint de se manifester dans la vie. Il y a des tas de manières. Moi, je pourrais vous raconter certaines choses en ce qui me concerne, mais bon, je crois qu'il est important que chacun ait un petit peu sa propre expérience. Chacun vive sa propre relation avec le Seigneur. Et donc, il faut bien se dire, il peut y avoir des manifestations extérieures, elles ne sont pas indispensables, mais il ne faut pas non plus les réfréner absolument. Alors, c'est une question de culture. L'Esprit-Saint, il a heureusement la faculté de s'adresser à toutes les cultures. Hein, j'ai eu l'occasion d'aller, il y a quelque temps, une semaine en Afrique, pour donner précisément une formation alpha au Togo. Et c'était vraiment une expérience absolument extraordinaire, parce que effectivement, le public africain, bon, enfin, je vois heureusement qu'il y a des personnes de couleur parmi nous, enfin de couleur, c'est une façon de parler, hein, encore une fois, parce que on est tous en noir et blanc aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a une spontanéité, une chaleur, c'est vrai que le thermomètre aussi, hein, il est beaucoup plus élevé, mais il y a vraiment une atmosphère tout à fait particulière qui est beaucoup plus pitante que dans nos communautés. Ça, c'est incontestable. Hier, j'étais par contre à un séminaire de formation au leadership spirituel, donc à la pastorale, si vous voulez, à la direction d'une église, direction d'une congrégation, d'une communauté. Et ça, c'était un truc américain. Alors là, c'est complètement différent. C'est tout aussi exubérant, mais c'est exubérant d'une autre manière. Alors là, c'est un flot de paroles, et on parle, et on parle, et on parle, et on parle pendant des exposés interminables, avec beaucoup de gestes et beaucoup d'agitation et beaucoup d'excitation, avec le pasteur qui va d'un coin à l'autre de la pièce avec son micro, qui fait lever les gens, qui fait les faire asseoir. Bon, je pense que là, c'est encore une toute autre manière de vivre la présence de Dieu. On prend ou on ne prend pas, peu importe. Mais écoutez ce que disait l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 3, les versets 16 et suivants. Et c'est très très important parce que c'est vraiment le sens profond de la venue de l'Esprit-Saint. Il dit, il écrit ceci aux chrétiens de la ville d'Éphèse. « Je me mets à genoux devant Dieu et je demande qu'il vous donne d'être fortifié avec puissance par son Esprit-Saint dans votre être intérieur. » Vous retrouvez cet être intérieur du zoo de Birmingham. Hein? Je vous donne d'être fortifié avec puissance. Ainsi, vous recevrez la force de comprendre, avec notre intelligence cette fois-ci. C'est plus seulement le cœur, on va comprendre. Avec tous les saints, c'est-à-dire avec tous les chrétiens, vous allez avoir la force de comprendre ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez en fait l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Donc vous allez comprendre ce qui surpasse toute connaissance. Et vous entrerez en plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Alors je vous encourage à relire fréquemment cette parole. Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 20. C'est une parole vraiment très profonde sur le sens de l'action de l'Esprit-Saint en nous. Votre propre plénitude, la plénitude de votre être intérieur, va être remplie de la plénitude de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on reçoit Dieu en plénitude par l'Esprit-Saint pour nous, tel que Paul nous le dit dans la Bible. Personnellement, je trouve ça franchement extraordinaire et je vous encourage à vivre ça de manière aussi extraordinaire. Chacun réagit à sa manière par rapport à l'Esprit-Saint. Et donc, une chose très très importante, c'est par rapport à l'expérience de Dieu, ne pas se comparer. Très souvent, il y a des gens qui aiment beaucoup les grands témoignages. Vous savez, des témoignages qui sont mais bouleversants, des gens qui viennent raconter, vous savez, ma vie a été complètement transformée. Depuis lors, ma femme m'aime à nouveau alors qu'elle ne m'aimait plus. Mes enfants reviennent à la maison alors qu'ils ne venaient plus. Je me sens en bonne santé alors que j'étais malade. Enfin bon, et vous avez un témoignage mais tellement fantastique qu'il en arrive à être écrasant. Et on dit pourquoi lui et pas moi. Donc les témoignages, pour moi, c'est quelque chose de très important. Mais c'est quelque chose qui doit toujours être reçu sans comparaison. Parce que, et c'était le cardinal Daniels qui disait ça, si vous vous comparez, ça ne peut engendrer que soit le découragement, soit l'orgueil. Ou bien vous vous trouvez mieux que l'autre et vous êtes orgueilleux, ou bien vous trouvez moins bien et vous êtes découragé. Et donc, sachez bien ceci, c'est que l'expérience profonde de l'Esprit-Saint que vous ferez, parce que tous, vous pouvez la faire, elle sera personnelle. Et elle ne sera pas nécessairement, tout au moins extérieurement, comme l'expérience qu'en fera votre voisin. De toute façon, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que nous recevions les fruits de l'Esprit-Saint. Et les fruits de l'Esprit-Saint, ils sont décrits dans une autre lettre de Paul, celle aux Galates, chapitre 5, verset 22. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ça fait une longue liste. Mais c'est une longue liste de vertus profondes qui nous sont données par l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint ne vient pas nous donner du découragement. Il ne vient pas nous effrayer. Il vient nous donner amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance. Ça, c'est la manifestation intérieure et extérieure de la présence de l'Esprit-Saint. C'est donc une première caractéristique de l'expérience que l'on fait, c'est l'expérience personnelle. Deuxième caractéristique, et ça se trouve aussi dans la parole du Seigneur, on le voit à la Pentecôte, il glorifiait Dieu, nous dit la Bible, par une louange spontanée. Donc les disciples qui avaient reçu l'Esprit-Saint glorifiaient Dieu par une louange spontanée. Alors ça, c'est très important, la prière de louange. Je pense que c'est une prière que nous ne pratiquons pas suffisamment dans nos paroisses, dans nos églises, dans nos communautés. Souvent, nos prières, ce sont des prières soit de pardon, Seigneur, prends pitié, ou ce sont des prières de demande. Seigneur, fais que. Hein? C'est fais que, la prière Seigneur, fais que, ça c'est la prière la plus fréquemment entendue dans nos églises, et notamment au moment des intentions de prière, à la messe, après le credo, il y a ce moment des intentions de prière, et souvent on dit Seigneur, fais que les malades se portent mieux, fais que ceux qui souffrent ne souffrent plus, etc., etc. Bon, c'est une manière de prier qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui est parfois peut-être un peu limitée. Il y a la prière de louange qui nous est inspirée par l'Esprit-Saint, c'est-à-dire cette prière qui nous décentre de nous-mêmes et qui nous fait aborder véritablement les frontières du royaume de Dieu. Je vous encourage à dire « Merci Seigneur » avant de dire « Seigneur, fais que ». Il faut déjà se mettre dans cette atmosphère, je dirais, dans cette disposition d'esprit de la louange, du remerciement, de la gratitude. Il vaut mieux dire merci plutôt que de dire « tiens, je ne sens rien ». Beaucoup de gens sont axés sur le sentiment ou sur la sensation. On dit « j'ai prié l'Esprit-Saint et je ne sens rien ». Alors, l'Esprit-Saint ne se manifeste pas nécessairement dans vos sentiments. Il va se manifester dans votre vie à sa façon, à lui, qui n'est pas nécessairement celle que vous attendez. Mais rassurez-vous, la prière à l'Esprit-Saint est toujours entendue par le Seigneur. Toujours, toujours. Et elle produit ses fruits, au moment et là où le Seigneur le choisit. et pas de la façon dont nous le voudrions. Beaucoup de choses se passent dans la prière. Nous devons le savoir dans la foi, dans la confiance en Dieu, et nous devons pouvoir lui dire merci avant que de ressentir quelque chose. C'est dans la louange que nous ressentirons sa joie, son amour, sa bonté. Ce n'est pas uniquement dans l'attente incessante qu'il réalise pour nous des choses extraordinaires. Rappelons-nous toujours cette parabole de l'enfant prodigue, le père qui attend le retour de son enfant, qui a fauté cet enfant prodigue, c'est toujours nous, n'est-ce pas, dans n'importe quelle situation. Et nous pouvons savoir que Dieu, qui est père, nous attend les bras ouverts, qu'il court vers nous, qu'il vient à nous et qu'il nous serre dans ses bras. Dites-vous bien qu'il y aura toujours de l'émotion dans les retrouvailles avec le Seigneur. Et s'il n'y en a pas de votre côté, il y en aura du côté de Dieu. Lui, il est plein d'émotion quand vous revenez vers lui. Lui, il est plein de joie quand on le prie, quand on se retourne vers lui. Alors, troisième manifestation de cette réception de l'Esprit-Saint, les apôtres reçoivent un nouveau langage. Alors, ça, c'est la fameuse question de la prière en langue, telle qu'elle est décrite dans les épîtres de l'apôtre Paul, et telle qu'on a déjà entendu ça. Je ne vais pas m'attarder très longuement là-dessus, parce que ça devrait faire l'objet de tout un exposé sur les charismes de l'Esprit-Saint, sur ce qui nous est donné par l'Esprit-Saint pour notre édification spirituelle et pour l'édification de la communauté qui nous entoure. C'est vrai que, vous le savez sans doute, dans certains moments de prière, en solitaire ou plus souvent en groupe, il peut y avoir des moments où l'on se met à prier en langue, c'est-à-dire où la parole nous vient sans que nous ne prononcions des mots intelligibles dans notre langue, mais où véritablement, par un chant mélodique ou par des paroles spontanées, qui ne sont pas des mots de notre langue, nous parlions à l'Esprit-Saint, sous l'empire de l'Esprit-Saint. Donc il y a effectivement des gens qui sont très réceptifs à ce charisme, de pouvoir prier en langue. C'est très facile parce que d'une certaine manière, parfois quand on prie, on ne sait pas très bien quoi dire à Dieu. Moi j'ai déjà entendu ça très souvent, des gens qui me disent « Oui, mais tu sais, moi je ne sais pas prier parce que je commence par dire « Ben merci Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait une ou deux bêtises, viens au secours de ma voisine qui a des problèmes avec son mari. » Et puis je ne sais plus. Et puis qu'est-ce que je vais lui dire, hein? Et puis voilà. Et alors, je ne sais plus quoi dire au Seigneur. Et alors, là, la prière en langue est extraordinaire, parce que vous pouvez alors à ce moment-là, en fermant les yeux, laisser monter en vous ce qui vient de l'Esprit-Saint. Et le Seigneur, lui, comprend. Il comprend la disposition de notre âme. C'est un peu, la prière en langue, c'est un peu le langage de l'âme. Cette façon décontracté, je dirais, de s'adresser au Seigneur. Alors ça peut se produire quand on est seul et que l'on est en prière, ça peut aussi se produire quand on est en communauté, et alors souvent ça s'exprime par un chant de toute l'assemblée, un chant sans parole, un chant purement mélodique, mais qui est souvent très très merveilleux, et qui montre la présence de l'Esprit-Saint, et qui souvent alors se traduit. C'est-à-dire qu'après le chant en langue, il y a une personne qui véritablement a en elle la conscience de ce que le Seigneur a voulu exprimer par ce chant et le traduit pour l'ensemble de la communauté. C'est souvent très très riche, mais je n'en parle pas plus longtemps ici parce que d'abord ça prendrait trop de temps, et puis je crois que ce n'est pas le but dans Alpha. Le but dans Alpha, c'est d'essayer de faire le point de ce que nous pouvons faire. Alors, je terminerai en vous citant quatre obstacles qui peuvent nous empêcher de recevoir cet Esprit-Saint. Alors, il y a un obstacle qui, je dirais, de nature spirituelle, et trois obstacles qui sont de nature psychologique. L'obstacle spirituel, il porte un nom que beaucoup de chrétiens, surtout catholiques, paraît-il, n'aiment pas, c'est le nom de péché. Alors, le péché, je pense que vous avez déjà, dans le parcours Alpha, entendu ce que c'était, notamment quand on vous a fait l'exposé « Pourquoi Jésus est-il mort ?» Le péché, c'est surtout rater sa cible, c'est surtout être en rupture de relation avec Dieu, donc ne le voyons pas en termes de culpabilité, mais sachons simplement que si le péché nous remplit, si nous nous laissons remplir par le péché, forcément, il n'y a plus de place pour que l'Esprit Saint nous remplisse. Vous savez, quand un verre est rempli à ras-bord, ben, il n'y a plus moyen d'ajouter de l'eau. Parce que si vous ajoutez de l'eau, ben, ça va couler, ça va se répandre. Le verre est plein, la bouteille est pleine. Si vous êtes plein de vous-même, si nous sommes pleins de notre péché, si nous sommes pleins de notre orgueil, si nous sommes pleins de notre propre personne, nous n'avons pas la place pour accueillir l'Esprit Saint. Et donc, il faut d'abord se vider de ces scories, de ces problèmes qui opacifient notre vie. Ça, c'est le premier obstacle qui est de nature, je dirais, spirituelle, mais qu'il ne faut surtout pas négliger, il est fondamental. Alors, les obstacles psychologiques, le premier, c'est le doute. Ah, le doute, ça, c'est le gros, gros problème. Je doute. Moi, l'Esprit Saint, est-ce que vraiment, moi, il va m'entendre? Est-ce que vraiment, c'est pour moi? Pour mon voisin, peut-être, mais moi, à mon avis, l'Esprit Saint, non, il ne va pas s'intéresser à moi. Et puis, est-ce que c'est vraiment une réalité? C'est bien ce qu'il a raconté Fontaine, là, mais hein, finalement, bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va véritablement me toucher? Donc, on est rempli de doutes et on oublie cette parole extraordinaire de Jésus qui insiste tant sur le fait de se laisser combler dans nos demandes. Le Seigneur disait, « Moi, je vous dis, c'est dans l'Évangile de Luc, chapitre 11, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit. Qui cherche, trouve, et à qui frappe, on ouvrira. » Ça aussi, c'est une parole que vous pouvez relire régulièrement dans votre vie. Elle est pleine d'une réalité profonde. Le Seigneur est là pour répondre à nos demandes. Et il attend nos demandes. Frappez, et l'on vous ouvrira. Cherchez, et vous trouverez. Et je pense que, si je ne m'abuse, Dominique a dû vous le dire aussi hier, certainement. Le deuxième sentiment qui est un obstacle à l'action de l'Esprit Saint, c'est la peur. Nous avons peur que l'Esprit Saint vienne nous déranger. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un vient frapper à la porte, vous avez plus de sel chez vous, vous allez aller chez un voisin demander du sel, mais vous regardez d'abord s'il est là, si on ne va pas déranger, s'il y a de la lumière en haut, etc. Donc on a peur finalement d'être un petit peu mal reçu par l'Esprit Saint. Donc on a surtout peur aussi qu'il vienne mettre du désordre dans mon ordre, ou plutôt qu'il vienne mettre son ordre dans mon désordre. Vous voyez ? Et ça c'est parfois un peu la peur que l'on a, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que tout va changer ? Est-ce que tout va bouger ? Est-ce que je ne vais pas être obligé de me laisser aller à faire des choses ou à dire des choses auxquelles je ne suis pas préparé ? Est-ce que du coup, mon curé ne va pas me demander de l'aide à la paroisse? Ça risque d'arriver, effectivement. Alors, on a un peu peur de ça. Et puis, le troisième obstacle psychologique, c'est le sentiment de notre indignité. Je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dit-on à la messe. Si on s'arrête là, ben c'est fichu. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais, rajoute la phrase, dis seulement une parole et je serai guéri. C'est-à-dire, c'est vraiment placer sa confiance dans le Seigneur. Si on en reste à notre sentiment d'indignité, qui est un sentiment respectable, parce que tout sentiment est respectable, il n'y a pas de sentiment bon ou de sentiment mauvais, un sentiment est une réalité. Et je pense que, effectivement, bien souvent dans notre vie, nous ne sommes pas dignes de Dieu. Mais Jésus, précisément, en mourant sur la croix, a balayé cette indignité et a dit « Non, je suis là pour vous. Je suis venu pour sauver ceux qui étaient perdus. je suis venu pour la brebis qui s'est égarée, je suis prêt à lâcher temporairement les 99 autres pour aller chercher celle qui s'est égarée. Je suis venu parce que je suis le médecin de vos cœurs, le consolateur. Je viens pour les pauvres, les humbles, les opprimés. Il vient pour ceux qui se sentent indignes. Et donc, s'il y a un mot qu'il faut retenir pour savoir comment recevoir l'Esprit Saint, ce mot, c'est la demande. En nous laissant aller, vous savez, c'est l'image du toboggan. Gardez peut-être aussi cette image dans vos pensées, dans vos cœurs. Celui qui est en haut du toboggan et qui se tient des deux côtés, solidement, il ne descendra jamais. Parce que tant qu'il ne lâche pas les bords pour se laisser glisser, eh bien, il ne démarrera pas. Quand l'enfant aura ressenti véritablement ce que c'est, alors là, il recommencera, et il aura tout le plaisir du toboggan. Ne nous accrochons pas à nos sécurités, ne nous accrochons pas à nos préjugés, à nos sentiments, à notre perception du qu'en dira-t-on. Hein, pouf, si je commence à prier l'Esprit Saint, que va penser la personne qui est à côté de moi, qui va me regarder d'un air un peu bizarre. Non, c'est votre relation à vous avec le Seigneur qui compte. Demandez-le, demandez-lui de venir en vous, demandons-lui de venir en nous. Et c'est ce que nous allons essayer de faire maintenant, très brièvement. On va essayer de prendre ensemble un temps de prière en communauté, ici, avant que vous n'alliez en petit groupe. Un temps où nous allons véritablement essayer de nous laisser interpeller par le Seigneur. En tant qu'assemblée, rappelez-vous, les disciples qui étaient au Cénacle avant la Pentecôte, ils étaient rassemblés là dans la chambre haute, dit-on, on est un peu dans la chambre haute ici, et ils attendaient véritablement la venue de l'Esprit Saint. Et je pense que c'est vraiment ce que nous pouvons faire maintenant, tous ensemble, par le chant, par la prière. Alors, lâchons les bords du toboggan. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire un geste qui exprime votre extérieur, enfin qui exprime l'extérieur de ce que vous ressentez à l'intérieur, faites ce geste. Ça peut être très simple. Ça peut être de fermer les yeux. Ça peut être d'ouvrir les mains. Ça peut être de se mettre à genoux. Ça peut être de se mettre debout. Ça peut être de lever les mains vers le ciel. Pourquoi pas ? Mais laissons notre corps exprimer ce que nous ressentons à l'intérieur. Et aussi, ouvrons notre bouche. Si nous avons envie de louer Dieu, de lui dire toute la joie qu'il met dans notre cœur, c'est aussi le moment. Parce que dans une communauté, dans une prière communautaire, la prière de l'un est exprimée, édifie tout l'ensemble de la communauté. Quand une personne s'exprime, c'est toute la communauté qui se rassemble autour de cette prière. Et ça, c'est vraiment des moments privilégiés. Ok ? Alors, on va essayer d'entrer dans ce petit moment de prière. Puis vous irez en petit groupe et Georges vous expliquera le sens de la démarche dans les petits groupes. Essayons, surtout ce matin, de rester dans un climat de réceptivité, hein, de prière. Essayons d'éviter trop de papotes et de blabla, mais concentrons-nous, centrons-nous sur le Seigneur. C'est pour lui que nous sommes ici et c'est par lui que nous sommes.